Place Info.
Bonsoir, les informés, édition spéciale ce soir avec le grand débat citoyen sur les retraites d'Emmanuel Macron à Rodez. Nous y sommes en direct. Vous allez entendre des extraits de ce débat, de ce qu'a déclaré le chef de l'État. Il y a évidemment l'autre grand titre ce soir, l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, 4 morts, ainsi que l'agresseur au couteau qui a été tué à son tour. On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir à vous, Nathalie Moret.
Oui,
journaliste politique au bureau parisien du groupe Hébrin. À mes côtés également, bonsoir et bienvenue, Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24. Et à mes côtés encore, bonsoir Olivier Perroux.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique à l'hebdomadaire Le Point. Nous avons également en direct de Rodez Yannick Falt du service politique de France Info et Gaël Joly du service reportage. Ils sont sur place pour assister à cette conférence conférence citoyenne, on va l'appeler comme ça, sur les retraites du président Emmanuel Macron qui est en cours, vous le savez. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour ces informés. Emmanuel Macron, donc en ouverture de son intervention tout à l'heure, est revenu évidemment en arrivant devant les 500 personnes réunies à Rodez sur le drame survenu à la préfecture de police, excusant évidemment de son retard. Il a demandé également à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire des fonctionnaires qui ont été tués. On écoute le président de la République.
Aujourd'hui, j'arrive devant vous avec quelques retards parce qu'évidemment ce midi, s'est passé dans notre pays, à Paris, un véritable drame. Ce midi, en effet, un individu qui travaillait à la préfecture de police de Paris a tué 4 de ses collègues. Il a ensuite été abattu par un jeune fonctionnaire de police. Je ne sais pas en dire plus aujourd'hui, et l'enquête commence. Mais j'ai tout de suite souhaité me rendre auprès des agents qui avaient eu à subir ce drame, ce choc, pour être à leur côté, leur apporter le soutien avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Les services de secours ont réagi de manière extraordinaire. Notre pays peut être fier de cela. Et donc sont à leur côté. Le gouvernement fait son travail pour ce qui relève de lui-même et la justice s'est saisie de l'affaire. L'enquête préliminaire a commencé et donc va permettre d'élucider les faits. Moi, je ne peux pas en dire plus à l'heure où je vous parle.
Voilà donc le chef de l'État qui, en guise de préliminaire, a évoqué ce drame survenu. C'est le mot d'Emmanuel Macron à la préfecture de police de Paris. Nathalie Moret, de ce que l'on sait ce soir sur ces événements tragiques, c'est au fond le nombre de victimes. Et on en sait finalement assez peu sur les motivations du meurtrier.
On n'en sait absolument rien. Et moi, je relève que le président Macron a été extrêmement prudent. On aurait pu imaginer qu'il donne lui-même des explications, qu'il avance la thèse, par exemple, d'une radicalisation de l'individu, puisque c'est ce qui a été avancé. Enfin, de ça, il n'a 10 mots. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on sait le nombre de victimes et elles peuvent évoluer, parce qu'on sait qu'il y a une cinquième personne qui est dans un état très, très, très grave. Et à part ça, il ne dit rien et il évacue finalement assez vite le sujet.
Oui, c'est une prudence de rigueur. Alors, sur l'agresseur converti à l'islam depuis 18 mois, il faut rester évidemment et éminemment extrêmement prudent à ce stade de l'enquête. Aucun lien n'a été établi entre cette conversion et son acte. Roselyne Fèvre, la prudence de rigueur, c'est peut-être la meilleure formule.
Oui, de toute façon, pour l'instant, à l'état de l'enquête, évidemment, on ne sait rien. Apparemment, il se serait converti il y a 18 mois. Alors on dit, une fois de plus, que dans ce qu'on ne sait pas, que ce radicalisé aurait refusé de serrer la main aux femmes. Ce qu'on ne sait pas ce soir, si le parquet antiterroriste va être est déjà officieusement saisi ou non. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'apparemment, il n'était pas policier, mais adjoint de sécurité au service informatique. Et ça peut peut-être ouvrir une brèche chez les policiers de savoir, dans le fond, qui on embauche. Visiblement, et on verra si l'enquête le dit, c'est un vacataire qui venait pallier les manques de moyens, les manques de formation. Et puis, le sujet va se poser chez les policiers du problème de l'infiltration de personnes radicalisées s'il s'avère effectivement qu'il l'est. Non, tout à fait, bien évidemment. Mais je dis que ça peut ouvrir une brèche si cela est confirmé chez les policiers.
Olivier Perroux.
Oui, je crois qu'il faut rappeler aussi que avant qu'on sache qu'il se soit converti à l'islam, ce qui n'établit aucun lien encore avec l'acte, on dit aussi qu'il a des troubles psychologiques. Donc, et ça non plus, ça n'explique pas le lien avec l'acte. Donc, d'autant plus que le drame s'est passé assez tardivement dans la journée. Donc, on est vraiment assez tôt pour parler des liens entre la personnalité de cet adjoint de sécurité. Et d'ailleurs, sur le sujet des adjoints de sécurité, ils sont énormément dans la police. Ils sont parfois dans les commissariats. Ils font le métier parfois de policiers dans les commissariats. Donc, en effet, comme vous le dites assez justement, ça reflète aussi ce dont on parlait hier, la marche de la colère des policiers, les manques d'effectifs criants. Et on peut noter, et ce que je note d'ailleurs, c'est que le sujet police vient entamer ce fameux acte 2 d'Emmanuel Macron assez sérieusement. Les images que l'on a vues hier lors de la marche de la colère étaient quand même assez marquantes. Les slogans qui ont été dits étaient assez brutaux et la réalité qui est dite depuis des mois, voire des années sur le fonctionnement et l'état de notre police nationale marque un peu ce début de quinquennat et va devoir occuper le gouvernement.
Nathalie Morey, il faut rappeler que ce qui s'est produit aujourd'hui dans le secret, si je puis dire, de cette préfecture de police de Paris, qui est une sorte d'état dans l'état, hein, policier, est sans lien évidemment avec la colère des 22 000 policiers dans la rue, mais elle ne fait qu'ajouter un climat qui est assez délétère aujourd'hui.
Oui, absolument. En fait, si vous voulez, cette agression au couteau, puisque c'est l'expression qu'on emploie en ce moment, tombe mal pour le gouvernement, si tant est que ce genre d'événement puisse tomber bien. Mais effectivement, ça arrive juste le lendemain où on a vu, mais l'exaspération comme on n'avait jamais vu dans la rue. Hein.
20 ans.
Mais effectivement, puis ça arrive aussi 10 jours ou une semaine après la manifestation dans la rue, devant les locaux de la France Insoumise, où j'étais allée. Alors effectivement, c'est pas tout à fait les mêmes raisons. Hein. Mais en même temps, j'avais trouvé là des policiers extrêmement déterminés qui n'étaient jusqu'alors jamais descendus dans la rue. Et là, effectivement, qu'il arrive dans ce contexte-là, cette agression au couteau qui met à mal une famille extrêmement atteinte dans son fonctionnement, c'est effectivement une mauvaise nouvelle.
Allez, nous reviendrons tout à l'heure, bien évidemment, et tout au long de cette soirée sur ces événements tragiques survenus à la préfecture de police de Paris. On va passer aux retraites et à ce grand débat en cours à Rodez dans un instant. Mais tout d'abord, à 20h11, tout juste, le rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Emmanuel Macron déplore un véritable drame après l'agression au couteau à la préfecture de police de Paris à la mi-journée. Il a lancé ce débat sur la réforme des retraites qu'il anime ce soir à Rodez par une minute de silence en hommage à ceux qui sont tombés, à leurs familles et leurs collègues. Un agent administratif de cette préfecture a donc tué 4 autres fonctionnaires, en a blessé un avant d'être abattu. Il travaillait au service informatique, avait 45 ans, vivait à Gonesse dans le Val d'Oise. Son domicile a été perquisitionné, sa femme est en garde à vue. Le parquet antiterroriste n'est pas saisi de l'enquête à ce stade. Elle est ouverte pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ce soir, il y a donc ce débat sur la réforme des retraites à Rodez avec le président de la République. C'est un sujet essentiel pour la vie de la nation, a-t-il déclaré dans son discours préliminaire. Ça vient de commencer maintenant un échange avec 5 à 600 personnes réunies dans la salle des fêtes. La plateforme sur Internet qui permettra aux Français de s'exprimer sur le sujet est ouverte. À présent, elle a été lancée au moment même où commençait ce débat. Le pronostic vital d'une collégienne de 14 ans est engagé dans le Jura. Elle a été victime d'une intoxication après un cross, une course en plein air. Elle a dû être héliportée vers un hôpital. En tout, 16 jeunes ont été victimes de malaise, 5 sont à l'hôpital. Et puis, un partout en ce moment, entre Saint-Étienne et Wolfsburg. On est au début de la deuxième mi-temps dans ce match de Ligue Europa de football. Alors que dans un peu moins d'une heure, Rennes affronte la Lazio de Rome.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, on en vient au débat sur les retraites. Emmanuel Macron, comme il l'avait fait, hein, au sortir, allez, pour tenter de sortir de la crise des Gilets jaunes, est en mode débat national. Il est debout avec son micro à la main, face à ce panel, à ces personnes qui ont été sélectionnées pour lui poser des questions. Il paraît que c'est sans filtre, et c'est vrai. Et Nathalie Moret veut peut-être... On va entendre un premier extrait, mais d'abord, précisons les choses, Nathalie Moret, sur les modalités de ce débat.
Bah oui, parce que effectivement, même si ça se passe en région Occitanie et si ce sont les lecteurs du Midi Libre qui sont autour du président de la République, oui, l'ensemble des lecteurs de la presse quotidienne régionale que je
dont
représente ici,
partie, oui,
absolument, ont pu poser des questions qui seront relayées par Olivier Biscaye. Donc, si vous voulez, je peux même vous donner les thèmes qui ont été mis en avant par par les lecteurs. C'est quand même assez intéressant.
Allez-y, quelques
déjà,
exemples. Oui.
La première question, c'est ce qui intéresse le plus les lecteurs, c'est l'âge. Et de très très loin.
L'âge de départ.
Oui. À quel âge on pourra partir et qu'est-ce que c'est que l'âge pivot? Ça, c'est vraiment les questions les plus, mais vraiment de très très loin en tête. Ensuite, il y a la valeur du point et son système de calcul. Troisième chose, ce sont les régimes spéciaux et ceux des indépendants. Voilà, on voudrait avoir des précisions là-dessus. Et ensuite, ce qui revient, il y a deux surprises qui sont arrivées dans les questionnaires. Il y a les retraites des parlementaires et ensuite, beaucoup de questions sur les cas particuliers des gens divorcés, paxés, les familles recomposées.
Alors voilà, donc des éléments de débat très précis avec vous, Nathalie Moret, donc glané, si je puis dire, par les grands titres de la presse quotidienne régionale. On écoute en premier extrait Claudie, 53 ans, qui a interpellé le chef de l'État sur le thème « Est-ce que je vais perdre mes avantages ?» Voici ce que lui a répondu Emmanuel Macron.
53 ans, vous êtes, je dirais, à la limite de... À la limite de ceux qui vont rentrer dans la réforme. Non, mais le premier point qui est important pour vous, c'est que tous les droits qui sont acquis ne changent pas. Bon, c'est le premier sujet. Deuxième point, de toute façon, vous aujourd'hui, si je prends les règles, c'est pour ça que je vous demandais si vous étiez dans une entreprise 3 enfants, sous le contrôle du haut-commissaire, vous ne pouvez pas partir avant 62 ans, aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs l'une des, entre guillemets, injustice. Alors les structures après sont pas les mêmes de salaire et je ne stigmatise absolument personne par rapport à personne d'autre. Mais seriez-vous infirmière à l'hôpital, vous pourriez partir à 57 ans si vous aviez eu 17 ans de carrière active. Donc c'est aussi ça qui est plus tellement compréhensible. Donc aujourd'hui, vous partez, vous n'avez pas le droit de partir à 62 ans, l'âge légal c'est 62 ans. Dans la nouvelle réforme, enfin dans le changement si je puis dire de système, l'âge légal ne bougera pas. L'âge légal ne bougera pas. La question qui est posée pour votre génération, c'est est-ce que on va devoir cotiser un peu plus pour que le système soit équilibré en 2025? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. La question elle a été posée par le Premier ministre à ce qu'on appelle le COR, qui est un organe indépendant, où il y a d'ailleurs des partenaires sociaux, des experts, des parlementaires, qui est chargé, vous en entendez peut-être, le Conseil d'orientation des retraites, qui dit ce dont on a besoin et les manques de financement. Donc, vous, les règles du jeu ne changeront pas quant à l'âge légal. On le laissera à 62 ans, il ne bougera pas. Je ne sais pas vous dire pour votre génération, si je puis dire, ce qui sera demandé. Ça dépend de ce que le COR nous dira en termes de besoins de financement. Parce que l'un des points clés qu'on a mis, c'est que le nouveau système qui commence en 2025, il doit commencer équilibré, ce qui est normal. Donc ça veut dire que si le COR nous dit il manque 8, 10 milliards, on devra dire qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Ça, c'est tout à fait vrai. S'il nous dit c'est à l'équilibre en 2025, on n'aura pas besoin de faire d'efforts. Ça, c'est le premier point. Ensuite, donc c'est ça qui prend en compte aussi vos enfants. Sur les carrières longues, je le dis pour tous ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, qui n'ont pas fait d'études longues ou de stages, il y a ce qu'on appelle le dispositif carrière longue qui existe depuis 2012, qui avait corrigé la réforme de 2010, qui permettait à ceux qui avaient commencé à travailler avant 20 ans de partir à 62 ans, même s'ils n'avaient pas tous les trimestres cotisés, ça, on le garde. Ça ne bougera pas. Donc, je le dis pour tous ceux qui ont des carrières longues et qui peuvent avoir votre âge plus jeune ou autre, ce dispositif reste, parce que ça, c'est un dispositif de justice. Bon. Et après, là où vous avez raison, et ça rejoint le point qui était fait par une autre d'entre vous, et je vais y revenir, c'est on doit prendre en compte, vous avez parlé des carrières médico-social, ce sera mon dernier point de réponse à votre question, c'est les trois composantes que j'avais notées. Vos filières, de toute façon, on va devoir très profondément les réformer. Les réformer pour prendre en compte davantage les conditions de travail difficiles et pouvoir répondre mieux qu'on ne le fait aujourd'hui aux conditions de rémunération. On ne peut pas le faire en 6 mois, je ne vais pas vous mentir. Parce que c'est une refonte en profondeur. On voit la crise qui est en ce moment à l'hôpital et aux urgences. C'est une crise qui vient de loin, qui vient de 20 ans de serrage de boulons, qui avait des justifications pour tenir les comptes. Hein. Moi, je critique personne. Mais on a aujourd'hui des professionnels de santé, quelle que soit leur qualification, leur rôle, à l'hôpital ou dans le secteur médico-social, qui sont aujourd'hui en souffrance.
Voilà donc la réponse d'Emmanuel Macron à Claudie, hein, 53 ans, sur la perte ou pas hein, des avantages avec le futur système qui est proposé par le gouvernement. Olivier Perroux, on sent que ce qu'évoquait tout à l'heure Nathalie Moret, d'ailleurs, cette question de l'âge, angoisse, au fond, les futurs retraités. Ce qu'a dit le chef de l'État, c'est au fond que, eh bien, l'âge légal ne bougerait pas, mais ça devient presque anecdotique.
C'est anecdotique et pourtant c'est, comme vous disiez assez justement tout à l'heure, c'est l'une des inquiétudes principales. Faut rappeler que cette question de l'âge de la retraite, c'est une promesse présidentielle. Il ne bougera pas, avait dit Emmanuel Macron pendant la campagne. Maintenant, je voudrais vous amener un peu plus tard. Il y a quelques mois, au début de l'année, avant l'été, ouais. Rappelez-vous ce que disait Agnès Buzyn, puis Benjamin Griveaux. Il y a eu énormément de couacs sur cette question d'âge pivot. C'est-à-dire que pendant
plus... Mais chacun y allait de son avis. Quoi.
Exactement, ouais. Chacun y allait de son avis. Et pendant plus d'un an, on a eu des ministres en fait qui ont inquiété eux-mêmes l'opinion publique sur cette question de l'âge pivot. De fait, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est obligé d'aller sur le terrain pour rassurer. Le problème, c'est que pour l'instant, dans sa première partie de discours, il n'a pas parlé de l'âge pivot vraiment. Et je voudrais rajouter un point aussi, c'est que on a eu 18 mois de concertation avec Jean-Paul Delevoye sur cette question des retraites.
18 mois, ce qui est quand même exactement une longue distance.
Et hein, la question que je me pose, c'est que pourquoi, après ces 18 mois de concertation, le président de la République, il est obligé de venir expliquer, décortiquer et rassurer malgré tout. Ça montre quelque part qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la parole du gouvernement sur la réforme des retraites.
Oui, Roselyne Fay, vous allez avoir la parole dans une petite minute. Pardonnez-moi, on marque une pause à 20h et 20 minutes sur France Info avec ce rappel de l'info avec vous, Jules Dequis.
Le débat sur la réforme des retraites ce soir à Rodez a commencé par une minute de silence et un hommage d'Emmanuel Macron aux 4 personnes tuées à la mi-journée à la préfecture de police de Paris. 4 fonctionnaires tués par l'un de leurs collègues avec un couteau de cuisine. Il a ensuite été abattu par un policier dans la cour de l'établissement. Une cellule psychologique est toujours en place sur les lieux du drame. L'assaillant, un homme de 45 ans. Il n'avait jamais présenté de difficultés comportementales, d'après le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Les enquêteurs veulent donc maintenant comprendre ses motivations. Ils interrogent sa compagne, placée en garde à vue. Ils ont perquisitionné son domicile à Gonesse, dans le Val-d'Oise. Le parquet antiterroriste n'est pas saisi de l'enquête, ouverte pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elle est confiée au parquet de Paris. La plateforme en ligne qui permet aux Français de s'exprimer sur la réforme des retraites est lancée. Elle fait partie du dispositif de consultation citoyenne qui doit se dérouler jusqu'à la fin de l'année. Un grand débat thématique ouvert ce soir, en ce moment, par Emmanuel Macron. Il répond à 500 à 600 personnes dans une salle des fêtes de Rodez, dans l'Aveyron. Dans le Jura, une quinzaine de collégiens ont été pris de malaise après une épreuve sportive, un cross au stade de Morbier. Ces jeunes sont victimes d'intoxication. On en ignore encore l'origine. Le pronostic vital d'une fille de 14 ans est engagé. 5 autres collégiens sont également hospitalisés. En Ligue Europa de football, la 2e journée, il y a toujours un partout entre Saint-Étienne et Wolfsburg. Il reste 25 minutes à jouer.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Vous allez avoir la parole, Roselyne Fèvre, je vous sens piaffée. Effectivement, chef de l'État a bien dit, hein, donc, dans cette nouvelle réforme, ça a été bien expliqué, que l'âge légal ne bougerait pas, mais il y a le problème, et il s'en remet d'ailleurs au Conseil d'orientation des retraites, de ces fameux 10 milliards qui manquent sur la table, et pas seulement l'idée selon laquelle il va falloir cotiser plus longtemps. Écoutez ce qu'il en a dit lors d'une réponse suivante.
Je pense, en fonction de ce que les experts nous diront, qu'il faudra peut-être cotiser plus. Comme on vit plus longtemps, le bon sens nous conduira à dire qu'on va devoir cotiser plus longtemps. Il ne faut pas se mentir collectivement. La question, c'est comment faire pour que ce soit juste. C'est ça ce qu'on est en train de collectivement débattre. Mais ce n'est pas vrai que, quand on vous dit on pourra retourner à la retraite à 60 ans, ce n'est pas vrai. On ne peut pas continuer à gagner des trimestres de vie en bonne santé, arriver de plus en plus tard dans la vie active et dire on va à 60 ans prendre la retraite. Il y a un moment, quelqu'un paye. C'est simple, hein. La retraite, c'est trois choses. La durée de cotisation, le niveau des cotisations, le niveau des retraites. Donc quand on vous dit plus on part tôt, ça veut dire soit vous cotisez plus quand vous bossez, c'est de la perte de pouvoir d'achat pour les salariés, soit vous baissez les prestations quand vous êtes retraité, c'est de la perte de pouvoir d'achat pour les retraités. Hein. La seule chose qui ne fait pas de la perte de pouvoir d'achat pour les retraités et les salariés, c'est de cotiser davantage. Le système, il est ainsi bâti qu'il n'y a pas de solution magique. C'est la nation qui se tient elle-même. Alors, par rapport à votre inquiétude, quand je regarde les 10 dernières années, on s'est beaucoup amélioré sur l'emploi des seniors. Aujourd'hui, le taux de chômage des seniors, il est inférieur au taux de chômage moyen dans la nation. Il est de 6,1%. Donc, quand on dit, attention, tous les seniors sont au chômage, c'est pas vrai. On s'est amélioré là-dessus. Là où vous avez tout à fait raison, et c'est ce que vous exprimez, c'est que quand on est victime du chômage après 55 ans, c'est aujourd'hui très dur de retrouver un emploi. Et donc l'un des combats qu'on doit mener, mais qui n'est pas lié à la retraite, qui est la bataille qu'on a en matière de travail, c'est un, de continuer à former ou reformer, quel que soit l'âge, nos concitoyens. D'ailleurs, c'est ce qu'on a décidé. Dans les 15 milliards d'euros qu'on a mis sur la formation, on forme aussi des seniors. Parce que vous pouvez vous retrouver à 53, 54, 55 ans. Vous avez fait 30 ans dans une entreprise. Elle ferme dans la région. Il y a des offres d'emploi, mais il faut faire 6 mois de formation dans quelque chose d'autre. Jusqu'à présent, on ne vous formait pas sur quelque chose qui dure 6 mois. Là, on a remis l'argent et on vous reforme. Et puis, il faut collectivement qu'on change l'état d'esprit de nos entreprises. Il y en a qui disent, oui, mais c'est un travail et on est en train de le faire. On est en train de le faire. Ça passe pas par la loi. C'est de se dire que quelqu'un qui a emmagasiné cette expérience, il fait pas les mêmes choses que quelqu'un qui a 35 ans. Il peut coûter plus cher parce qu'il est plus loin dans la carrière. Il fait pas les mêmes choses, mais il a acquis une expérience, des réflexes, qui est un trésor emmagasiné, qui vaut quelque chose dans l'entreprise. Exactement. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on est en train de travailler, branche par branche, et ça fait partie de ce sur quoi on doit continuer à améliorer les choses.
Voilà donc Emmanuel Macron sur ses cotisations. Peut-être qu'il faut imaginer un peu plus longtemps dans nos carrières et surtout l'emploi des seniors qu'il va falloir former parce que après 55 ans, c'est plus difficile de trouver un emploi. Roselyne Féaville est en train de préparer les esprits, là, Emmanuel Macron.
En fait, je pense qu'il navigue un peu à vue. Pourquoi ?
Il navigue à vue, vous dites. Il navigue
à vue. Je pense. Alors. Après, je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'il y a une inconnue qui pèse sur la réforme, c'est l'équilibre financier. Rappelez-vous, en 2017, le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, avait dit « on n'aura pas de problème financier, les mesures d'âge vont suffire ». D'ailleurs, c'est les mesures d'âge, c'est-à-dire travailler, ouais, cotiser plus longtemps. Et puis, badaboum, il y a eu des nouveaux calculs qui n'étaient pas justes. Et le Premier ministre a commandé un nouveau rapport du COR qu'on aura en novembre. Donc, on ne sait pas quel sera l'état des finances. Et il y a deux choses. La deuxième chose, c'est que la complexité, je pense, génère de l'angoisse. Cette complexité, elle génère tout et elle nourrit le scénario négatif. Aujourd'hui, c'est pour ça que personne ne comprend grand-chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée d'Emmanuel Macron, oui, en 2017, c'était d'une part rétablir la justice, c'est-à-dire refaire de la solidarité. Il a compris qu'il y avait une menace sociale, qui est que le corporatisme, en quelque sorte, où chacun pour soi, où chaque catégorie ne veut pas perdre. Et puis, la deuxième, c'est la crédibilité. Les jeunes sont persuadés qu'ils n'auront pas de retraite.
Donc, c'est une vraie question de fond, ça. Oui, absolument.
Oui. Absolument. Donc, ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est que, dans le fond, il pense que l'état social est injuste et qu'il faut le transformer et le rétablir. C'est ça l'axiome de base du président de la République aujourd'hui.
Ce sont ces deux
leviers sur lesquels il veut agir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fera en fonction du rapport du COR ? Ça, c'est une question. Pour l'instant, qu'on ne connaît pas.
Le temps tourne, on va bientôt arriver à la pause, mais vous rassurez-vous, on a encore une demi-heure à passer ensemble pour décortiquer ce grand débat, pour moi c'est le passé, le grand débat qui est en cours. Nathalie Mouret, encore un mot sur ces fameux 10 milliards. On a l'impression qu'il ne manque que 10 milliards sur la table, mais on valse avec les milliards. On en a eu 17 milliards pour post-gilet jaune, c'est pas ça le problème au fond.
En fait, 10 milliards, c'est pas quelque chose qui est vraiment à hauteur d'homme. Nous, on l'a vu dans les questionnaires qu'on a fait passer à nos lecteurs, ils parlent rarement d'argent. Il parle pas.
C'est pas le sujet. Hein.
Non, il parle pas, par exemple, du système d'équilibre des retraites. On sait que c'est le sujet, hein, puisque il faut que ce soit équilibré pour continuer. D'ailleurs, il l'a dit. Mais il a assez peu insisté là-dessus, le président de la République, sur son propos liminaire. Il a plutôt insisté sur les relations transgénérationnelles, le fait que les jeunes devaient cotiser pour les plus anciens. Il a essayé de donner en quelque sorte une espèce de vision, et je trouve ça assez nouveau, parce que jusqu'à présent, on parlait des retraites comme quelque chose de finalement assez anxiogène, quelque chose qu'on n'aurait jamais, et qui de toute façon, si on l'a, ce sera moins bien aujourd'hui qu'hier.
Allez, on marque une pause à 20h28 dans les informés de France Info. Nous revenons dans un petit instant après la météo, après le rappel de l'info, et nous continuons avec ce grand débat citoyen. Allez, on va voler comme ça sur les retraites d'Emmanuel Macron à Rodez. À tout de suite.
Ce message est spécialement destiné à tous les visiteurs qui vont séjourner dans leur camping-car au Salon des véhicules de loisirs de Paris-le-Bourget.
Vous allez venir au Salon des véhicules de loisirs en camping-car et y rester une nuit ou plus? Vous pourrez bien sûr stationner sur place et profiter des dîners-spectacles qui ont lieu tous les soirs. Le Salon des véhicules de loisirs de Paris-le-Bourget, c'est jusqu'au 6 octobre. Achetez vos billets à tarif réduit 7 euros au lieu de 12 sur salonvdl.com. Vous éviterez les files d'attente aux caisses.
Mercedes-Benz. Hey Mercedes, appelle Tom. Hey Mercedes, où est le parking le plus proche? Hey Mercedes, je veux manger un burger.
Vous voyez, on peut tout demander à Mercedes. Même une offre exceptionnelle, comme la classe A, à 290 euros par mois. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz pour en profiter.
Offre à l'aide des 37 mois 45 000 km pour une classe A160 Styline, boîte manuelle. Premier loyer de 3 120 euros si acceptation par Mercedes-Benz Finance. Valable jusqu'au 27 décembre 2019. Détails sur mercedes-benz.fr.
France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
Les prévisions d'Élodie Calac pour Météo France.
Des nuages et un peu de pluie demain. La perturbation arrivée par la Bretagne glisse sur l'ouest et le nord ce soir et cette nuit avec des pluies faibles. Demain sur le sud-ouest, le massif central et Rhône-Alpes, ce sera encombré avec quelques pluies seulement le matin, plus marquées sur le nord des Alpes. Entre la Normandie, le nord, la région parisienne et le nord-est, des nuages, quelques averses, surtout sur l'Alsace et le Jura en matinée. L'après-midi, les averses deviendront fréquentes au nord de la Seine. Près de la Manche, ça soufflera fort jusqu'à 80-90 km à l'heure. De l'océan au centre, on aura des éclaircies appréciables. Pour avoir plus de soleil, on ira dans le sud-est. Les températures seront en hausse, 4 à 16 degrés le matin, 15 à 22 l'après-midi et jusqu'à 25 en Méditerranée.
minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Trois hommes et une femme tués, un cinquième policier gravement blessé. Bilan de cette agression au cœur de la préfecture de police de Paris aujourd'hui. C'est un employé de la direction du renseignement qui est passé à l'acte. Il était armé d'un couteau de cuisine, il a été abattu. Cet homme de 45 ans travaillait depuis plus de 20 ans au service informatique sans attirer l'attention sur lui. Les enquêteurs cherchent donc à comprendre pour quelles raisons il a agi ainsi. Son domicile a été perquisitionné et sa femme est ce soir en garde à vue. Emmanuel Macron déplore ce soir un véritable drame et il a d'ailleurs demandé à ce qu'une minute de silence à la mémoire des policiers tués soit observée juste avant le début du débat sur la réforme des retraites. Le président est en effet à Rodez depuis une petite heure maintenant. Il répond aux questions de 500 citoyens et tente de les convaincre du bien fondé de cette réforme qui vise à supprimer les 42 régimes existants. Cette réforme est un sujet essentiel pour la vie de la nation, a déclaré tout à l'heure le chef de l'État. Que s'est-il passé dans le Jura cet après-midi alors que des collégiens venaient de participer à un cross dans le stade de Morbier. Une quinzaine d'adolescents ont fait un malaise. Deux d'entre eux sont ce soir dans un état grave, selon les pompiers. Jean-François Bova est le directeur de cabinet du préfet du Jura.
Au final, sur les 90 qui effectuaient le cross, 16 victimes ont présenté des symptômes de maux de tête et de douleurs abdominales. Sur ces 16 victimes, 5 ont dû faire l'objet d'une hospitalisation sur 3 centres hospitaliers différents, Besançon, le centre hospitalier de Saint-Claude et le centre hospitalier de Lens-le-Saunier. Quant aux causes, elles ne sont pas encore déterminées. L'ensemble des moyens est mobilisé. Sur ce sujet, bien évidemment, Monsieur le procureur de la République a d'ores et déjà ouvert une enquête sur ce sujet. Il semble, hein, des premières investigations, qu'on puisse exclure la consommation d'eau potable.
Et le procureur de la République indique que le pronostic vital est engagé ce soir pour une collégienne de 14 ans. À Rouen, le préfet indique que les opérations de pompage sur le site Lubrizol vont encore durer plusieurs semaines. Des brumisateurs ont été installés dans l'usine aujourd'hui pour limiter le plus possible l'émanation d'odeurs nauséabondes. Les 160 fûts endommagés doivent être traités et évacués. Ces opérations délicates débuteront la semaine prochaine. À l'étranger, en Irak, les blindés des forces spéciales se sont dressés aujourd'hui face aux centaines de manifestants à Bagdad. Des étudiants, des familles qui demandaient plus d'emplois pour les jeunes, mais aussi le départ de dirigeants considérés comme corrompus. Un mouvement de contestation qui a été lancé sur les réseaux sociaux il y a 3 jours et qui gagne désormais le sud du pays. 26 personnes ont été tuées. Le sport, les coupes européennes de football. Après les phases de groupe de la Ligue des Champions, voici la Ligue Europa, c'est la petite coupe d'Europe. Rennes jouera dans une demi-heure chez les Italiens de la Lazio de Rome. En attendant, Saint-Etienne bataille ferme face aux Allemands de Wolfsburg depuis 19h. Un partout après 80 minutes de jeu. Les mondiaux d'athlétisme à Doha au Qatar et grosse déception dans le camp français. Kevin Mayer a abandonné aujourd'hui lors de la 7e épreuve du décathlon. C'était l'une des principales chances de médaille d'or pour les Bleus. France Info, 20h33, la suite des infos. Mais Jean-François Aquili.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Nous sommes toujours en édition spéciale à propos du grand débat citoyen sur les retraites qui se déroulent en ce moment même à Rodez. Emmanuel Macron devant 500 personnes avec Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe Hébrin, avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, et avec Olivier Perroux, journaliste politique au Point. Alors, une des interventions assez remarquées, évidemment, puisque ça parle quand même de ce qui restera dans la poche, c'est au fond l'assimilation du montant des pensions avant et après la réforme. La question est posée par Olivier Biscay, le rédacteur en chef de Midi Libre. Écoutez en même temps aussi la réponse du chef de l'État.
Alors, une question pratique, mais elle est utile pour tout le monde. On a eu beaucoup de questions. Une question de Paris-Normandie, Alain Bertrand, 55 ans. Pourra-t-on, avant le vote de la loi, à l'aide d'un simulateur, comparer le montant de sa pension avant et après la réforme? Je crois qu'il y a des projets de plateforme, c'est ça?
Oui, alors là-dessus, il faut qu'on s'entende. Le simulateur individuel, il faut qu'on ait fixé les paramètres. Donc, sinon... Donc d'abord, je vous le dis, quand je vois parfois des simulations qui sont faites, il y a des journaux qui en ont sorti, des gens qui font des sites... C'est de la pipe complète, hein. C'est des trucs, c'est des gens qui mettent des hypothèses, non mais qui n'existent pas, elles sont pas fixées. Les hypothèses fixées, ce sont celles que je vous ai données là. Donc, on n'a par exemple pas fixé comment on calcule la valeur du point. Ça, c'est un des chantiers qui est en négociation. Donc, là, il faut qu'on continue le travail. On s'est donné jusque fin d'année, janvier. Je pense qu'il faut être raisonnable, c'est janvier, février, on pourra avoir ces paramètres là. Si on arrive à converger, moi je pense qu'il faut. Il faut prendre le temps sur ce sujet et bien le faire. Si en janvier-février, on a les idées claires, qu'on voit des vraies convergences, on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord du tout avec la réforme, moi je respecte ça, mais il faut qu'on ait tous honnêtement parlé, qu'on ait les idées claires. Si en janvier-février, sur ce qui permet de faire une simulation, c'est-à-dire le nombre de points, la valeur du point, etc., les grandes règles, on sait le mettre en place, à ce moment-là, on pourra mettre en place un simulateur. Moi, mon objectif, c'est qu'on puisse le mettre en place à ce moment-là. Et que les gens puissent commencer à trouver un repère. Alors, est-ce qu'il pourra être individualisé? Il me montre un truc, Jean-Paul Delevoye, en disant « étude d'impact ». On continuera de le faire dans la foulée. La grande difficulté du système, c'est comme il commence à vivre en 2025, c'est très dur de le comparer à une situation aujourd'hui. C'est l'effort collectif qu'on doit faire, c'est de se projeter. Et quand les gens parlent de gagnant-perdant, ça n'a pas grand sens par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on parle d'un système qui commencera pour certains à vivre en 2025 et qui sera pleinement déployé en 2040. Donc, je veux dire, il faut regarder ce que donnerait votre situation avec le système actuel, vu les accidents de carrière, etc. Enfin, donc, il y aura, oui, si en janvier-février, on arrive à avoir toutes ces conditions-là, l'objectif, moi, que je poursuis, c'est qu'on puisse présenter les grands termes de ce qui serait une loi cadre. Comment je vois cette réforme collectivement? C'est que là, on arrive par ce travail, tous ensemble, à converger et à trouver les grands principes. Sur cette base-là, on pourra avoir une étude d'impact un peu générale et avoir des mécanismes de simulation. Est-ce qu'on arrivera à faire des simulations individuelles, les cas étant si spécifiques? Je ne sais pas vous le dire, on va essayer.
Olivier Perroux, vous qui êtes un jeune journaliste et qui avez tenté sur Internet de simuler votre future retraite en 2050, c'est de la pipe, hein, dit le chef de l'État.
Exactement, oui. Mais j'ai envie de dire aussi que sa réponse, pardonnez-moi l'expression, mais c'est de la pipe.
Aussi.
On ne comprend rien,
c'est ça.
Mais c'est difficile à comprendre, il y a un mélange un peu de tout, il y a du en même temps, beaucoup d'en même temps dans ce qu'il dit le président de la République, mais surtout cette question des pensions de retraite, elle est éminemment politique. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que l'une des préoccupations premières des Français, c'est le pouvoir d'achat. En numéro 2, c'est l'écologie. Cette question, elle est politique. Pourquoi ? Parce que l'un des premiers à avoir alerté sur cette probable baisse ou cette potentielle baisse des pensions, c'est Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. Et on sait très bien que Xavier Bertrand, il regarde avec attention 2022, la présidentielle. Donc, un potentiel adversaire pour Emmanuel Macron. Elle est aussi politique. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron nous dit, c'est pas vraiment le sujet principal, cette question des pensions. Le sujet principal, c'est que c'est une question, ce que vous disiez tout à l'heure, générationnelle. C'est-à-dire que cette réforme, ouais, elle va être importante en 2025. Pour l'équilibre générationnel. Mais 2025, politiquement, c'est dans longtemps, c'est dans très longtemps. Et c'est difficile pour Emmanuel Macron, et c'est difficile aussi, du coup, pour le gouvernement, et d'autant plus difficile pour les Français de comprendre l'intérêt de cette réforme qui ne sera vraiment efficace, si on le croit, ou qui rentrera vraiment en vigueur en 2025. Ce qui occupe les Français maintenant, là, aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat.
Nathalie Moret, si, pour poursuivre ce que dit à l'instant Olivier Perroux, si je vous fais une interro, vous serez capable de me dire comment est-ce qu'on calcule justement le montant de cotisation des pensions avant et après ?
Mais pas plus que le président de la République.
Exactement.
C'est bien ça le problème. Le problème, c'est qu'on est face à un problème macroéconomique. Hein. Comment on fait pour régler les pensions de retraite et pour que les retraités de dans 20 ans, comme Olivier, aient une pension de retraite, ou 30 ans, pardon, Olivier, aient une pension de retraite correcte. Donc ça, c'est la question de base. Mais ensuite, ils se heurtent, comme ce soir en Occitanie, à 500 personnes qui veulent savoir pour elles, personnellement,
bien
à
sûr
quoi ça va correspondre. Donc ça, il ne peut pas répondre à ça, il ne peut pas répondre à ce questionnement-là, moi non plus, vous non plus.
Roselyne Febvre, c'est la difficulté justement, il y a 42 régimes spéciaux, il y a 42 régimes de retraite, c'est une somme, une addition à l'infini de cas particuliers, de régimes particuliers.
Oui, bien sûr.
Il va être très difficile de convaincre tout le monde en même temps.
Oui, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que chaque corporatisme voudra garder sa caisse, les avocats voudront garder leur caisse. Mais est-ce que franchement, aujourd'hui, c'est une justice sociale de se dire qu'il y en a qui partent à 52 ans et d'autres à 62 ans ? C'est quand même pas très logique. 52 ans pour les cheminots, c'était à l'époque où il y avait des trains à vapeur. À ce que je sache, il y en a plus.
Vous dites que l'argument de la pénibilité n'est plus
alors,
aussi.
Alors, il l'a dit ce soir, hein, président.
Oui. Mm-hmm. En revanche, sur les policiers, il me semble avoir vu passer que Christophe Castaner voulait rencontrer Jean-Paul Delevoye pour intégrer l'idée de dangerosité dans certains métiers, dont notamment.
Donc prolonger finalement certains régimes particuliers, certains régimes spéciaux.
Est-ce qu'on ne va pas, in fine, arriver effectivement à avoir des petits amendements, des petites inflexions pour les uns et les autres ? Mais moi, ce qui, dans le fond, ce que je disais tout à l'heure, qui génère de l'angoisse, c'est de ne pas savoir où on va. Et c'est cette histoire du point. Le point. Combien va valoir le point ? Et surtout,
et est-ce qu'on pourra agir sur le montant du point ?
Non, mais il est lié à l'économie française.
Alors,
et c'est ça qu'on ne dit pas assez. C'est que si l'économie va mal, le point
va baisser.
Exactement.
On va rester sur ce point fondamental. Vous avez raison de le souligner. Il est 20h41 sur France Info. Tout d'abord, ce rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
Une cellule psychologique est toujours en place à la préfecture de police de Paris, là où un fonctionnaire a tué 4 de ses collègues, une femme et 3 hommes, à la mi-journée avec un couteau de cuisine. Il a ensuite été abattu par un policier. Pour cerner son profil et ses motivations, les enquêteurs questionnent en ce moment sa compagne. Ils ont perquisitionné son domicile à Gonesse, dans le Val-d'Oise. L'homme n'avait jamais présenté de difficultés comportementales, ni le moindre signe d'alerte, d'après le ministre de l'Intérieur. Il était même vu comme un employé modèle par ses collègues. La section antiterroriste n'est pas saisie de l'enquête, elle est dirigée par le parquet de Paris. Emmanuel Macron répond donc en ce moment à des Françaises et des Français sur la question des retraites. 5 à 600 personnes réunies autour de lui pour la soirée dans une salle des fêtes de Rodez en Aveyron. Dans la nouvelle réforme, l'âge légal de départ ne bougera pas, assure le président de la République. Sur la durée de cotisation, en revanche, qui pourrait s'allonger pour équilibrer le système, il dit ne pas avoir de réponse aujourd'hui. Le gouvernement lance cette consultation citoyenne qui va durer jusqu'à la fin de l'année. La plateforme Internet, qui en est un de ses outils, a été lancée au moment même où Emmanuel Macron a pris la parole ce soir. Dans le Jura, le pronostic vital d'une fille de 14 ans est toujours engagé. Elle a participé à un cross au stade de Morbier dans l'après-midi. Une quinzaine de ses camarades ont aussi été victimes de malaise. 5 ont dû être hospitalisés pour une intoxication. Le parquet a ouvert une enquête pour blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité. Et puis à quelques minutes de la fin du match entre Wolfsburg et Saint-Etienne, il y a toujours un partout entre les deux équipes. C'est la deuxième journée de la Ligue Europa de football.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, un détour par Rodez, en direct avec vous. Bonsoir Yannick Falt.
Bonsoir Jean-François.
Du service politique de France Info. Yannick, je ne sais pas si vous avez le droit de poser des questions sur votre future retraite, mais quelle est l'ambiance dans la salle ?
Aucune précision supplémentaire pour l'instant sur le détail de la réforme. Rien de surprenant. Le chef de l'État est surtout venu ici pour tenter de dissiper les inquiétudes des Français en expliquant avant tout le pourquoi de la réforme. Un, le système de retraite par répartition est un bon système, mais il n'est plus adapté, dit-il. Il a trahi la promesse de ses fondateurs en créant des inégalités. Le système n'est plus universel pour Emmanuel Macron car il n'y a pas un régime, mais 42 des inégalités qui ont créé de la défiance, poursuit le chef de l'État, citant le cas du conducteur de la RATP qui part beaucoup plus tôt en retraite qu'un fonctionnaire territorial. Exemple choisi évidemment à dessein alors que la première grève à la RATP a été très suivie et qu'un nouvel appel illimité cette fois est lancé pour le 5 décembre. Et puis, deuxième argument, l'évolution du monde professionnel avec le temps partiel, des changements d'employeurs, parfois des passages du public au privé ou l'inverse. Bref, des carrières qui sont de moins en moins linéaires. Le pourquoi de la réforme donc, mais pas le comment, alors que les questions pour l'instant sont plutôt policées. Il n'y a pas d'échange très vif entre les lecteurs tirés au sort et le chef de l'État. Le président d'ailleurs botte souvent en touche, notamment sur la durée de cotisation, renvoyant sur les experts du corps, le conseil d'orientation des retraites. Donc de grands principes, mais rien de très nouveau pour l'instant.
Oui, merci à vous Yannick Falt. Encore un mot Yannick, si c'est possible, vous pensez que ce débat va durer ce soir? Beaucoup de questions apparemment sont prêtes pour le chef de l'État?
Oui, beaucoup de questions. En fait, le chef de l'État répond à 5 questions d'un coup. Il y a un modérateur, le rédacteur en chef de Midi Libre.
Oui, Olivier Biscay.
Exactement. L'Élysée a annoncé un débat de 3 heures environ, mais on sait que le chef de l'État parfois est pris en quelque sorte à son propre piège, lui qui adore ce genre d'exercice. On l'avait vu notamment lors du lancement du grand débat en janvier dernier. Le premier exercice avait duré près de 7 heures. Donc 3 heures annoncées, on verra effectivement à quelle heure ça se termine ce soir.
Merci à vous en tous les cas Yannick Falt. On vous retrouve tout à l'heure évidemment en direct de Rodez sur France Info. Nathalie Moret, je voudrais revenir sur ce point fondamental soulevé tout à l'heure par Roselyne Fèvre. Ce fameux point censé remplacer l'ancien système. C'est Philippe Martinez qui avait mis en garde au fond les Français, le leader de la CGT, en disant que les retraites seraient évidemment moindres. Il suffira de faire baisser la valeur du point quand ça ira pas très bien ou quand le gâteau sera un peu réduit. C'est ça vraiment un des sujets d'inquiétude des Français.
C'est un des sujets d'inquiétude des Français sur lequel est revenu d'ailleurs le Premier ministre ce week-end en disant que la valeur du point serait gérée par une autorité indépendante.
Avec les syndicats.
Autorité indépendante au sein de laquelle siégeraient les syndicats. Tout ça c'était censé déminer un petit peu la colère de certains syndicats puisque je vous rappelle que tous ne sont pas sur la ligne de la CGT. La CFDT est beaucoup plus, elle est favorable au point depuis très très longtemps. Et donc tout le souci du gouvernement et de Emmanuel Macron ce soir, c'est de faire de la pédagogie de ce genre de choses qui ne sont pas passées dans l'opinion. Très honnêtement, retraite à point, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quand même assez peu de gens qui sont capables de vous l'expliquer. Ouais. Donc cette session-là de communication et de pédagogie, elle est faite surtout pour ça.
Allez, on va voir comment ça se passe à Rodez face aux 500 personnes, à ce panel assez large, face au chef de l'État. Une question de Christian et la réponse d'Emmanuel Macron.
Votre première question, Christian, merci beaucoup. Sur les maladies chroniques et la prise en compte du bénévolat qui rejoignait la question de monsieur. Alors, ça c'est en effet l'un des chantiers qu'il y a dans notre système, plus on prend en compte du non contributif, plus de toute façon il faut qu'on le finance par la solidarité à ce moment-là. Donc soyons clairs, c'est la part qu'on ne financera plus par les cotisations, mais par l'impôt. Ce qui est vrai, c'est que notre pays aujourd'hui a un formidable trésor qui sont ses associations, ses bénévoles, le volontariat des pompiers, et vous l'avez rappelé. Mais aussi, je veux le dire ici parce que peut-être qu'on l'évoquera, mais le rôle de ce qu'on appelle aujourd'hui les aidants, qui peuvent ne pas être dans des associations et autres, mais sont des bénévoles pour leur famille ou leurs proches. Et qui, s'ils n'étaient pas là, ben, en quelque sorte, ferait que la personne qui les aide, dont ils s'occupent, serait à la charge de la société. Aujourd'hui, notre système est en effet aveugle pour eux. Donc, on a commencé, d'ailleurs, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année prochaine, pour la première fois, on va prendre en compte la situation des aidants et bonifier, justement, leur permettre d'avoir une bonification, un congé, et valoriser cela. Moi, je suis très favorable qu'on puisse le prendre en compte dans le système de retraite. Simplement, il faut le prendre en compte et qu'on accepte que ce soit l'impôt qui finance cela. Parce que si on veut qu'il y ait une solidarité et que ceux qui aident, ceux qui sont bénévoles et qui s'engagent aient en quelque sorte un bonus, on ne peut pas demander aux autres travailleurs de cotiser pour cela. On peut demander, c'est à ce moment-là la solidarité nationale que c'est l'impôt. Ça fait partie des sujets qui sont à la discussion, mais moi je considère que ça fait partie des sujets intelligents. Est-ce qu'on pourra prendre toutes les situations de bénévolat? Je ne saurais pas vous le garantir, mais de pouvoir en tout cas mieux valoriser bénévolat, et pour répondre tout de suite à la question de monsieur, le volontariat, oui, on sait que c'est un des vrais débats qu'on a avec les sapeurs-pompiers volontaires, qu'ils passent beaucoup de temps. On a déjà aujourd'hui un système qui bonifie, hein, on le sait, mais pas suffisamment. En tout cas, ça fait partie des discussions qui sont en cours. Moi, je suis très sensible aujourd'hui, justement, pas seulement au mouvement, mais enfin à l'engagement de beaucoup autour de cela. Donc ça fait partie des choses qui sont à la discussion et qu'on doit, d'ici le mois de janvier, purger.
Voilà donc le président Emmanuel Macron, avec une des nombreuses questions qui lui sont posées. Je vous rappelle que nous sommes toujours en édition spéciale sur France Info, en direct de ce grand débat citoyen sur les retraites à Rodez. Emmanuel Macron face à un panel de 500 citoyens français. Olivier Perroux, vous rappeliez au début de ces informés qu'au fond, il y avait eu 18 mois déjà de discussions syndicales au préalable. Est-ce que selon vous, les choses sont déjà un petit peu ficelées ou pas du tout? Ça reste très ouvert.
Oui, c'était d'ailleurs un reproche de certains syndicats, que les choses étaient un peu trop ficelées pour une concertation de 18 mois. C'est d'autant plus ficelé qu'aujourd'hui, ce que réalise Emmanuel Macron est un acte politique qui va compliquer la vie de ses ministres, la vie de Jean-Paul Delevoye dans les jours à venir. Pourquoi ? Parce qu'on fait face à une distorsion politique là. Emmanuel Macron, il sait très bien faire ça, répondre, comme vous disiez tout à l'heure, hors micro, répondre aux questions individuelles, moi comment sera ma retraite, et moi comment, combien je vais avoir de pension, etc. Emmanuel Macron, il a fait ça pendant plusieurs mois, pendant la crise.
Rodé à l'exercice.
Exactement, et il sait très bien faire. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de la micropolitique, puisque cette actualité, c'est ce que faisait très bien Jacques Chirac. Vous savez ce qu'on appelle la tape dans le dos. Ça marche très très bien, ça, de rassurer à l'individuel les gens. Le problème, c'est que va y avoir une distorsion politique avec ce qu'on va lire du rapport du COR, avec ce que va dire le Premier ministre, avec ce que diront les ministres de l'économie et de la santé. Là, je suis pas sûr que le job d'Emmanuel Macron facilite la vie de ses ministres à l'avenir, et on va avoir plusieurs couacs, je pense que je peux vous promettre.
20h50 minutes sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Jules Dequisse.
L'agression au couteau à la préfecture de police de Paris est un véritable drame, déplore Emmanuel Macron. Il a observé une minute de silence il y a une heure environ à Rodez, où il débat de la réforme des retraites. Hommage aux quatre fonctionnaires tués par l'un de leurs collègues avec un couteau. Les faits se sont déroulés entre 12h30 et 13h. Ses motivations restent pour l'heure inconnues. Il n'avait jamais présenté de difficultés comportementales, selon le ministre de l'Intérieur. Son domicile a été perquisitionné. Son épouse est toujours en garde à vue. L'enquête est ouverte pour homicide volontaire et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elle n'est pas confiée au parquet antiterroriste. Ce soir, il y a donc ce débat à Rodez sur la réforme des retraites avec le président de la République face à 5 à 600 personnes. C'est un sujet essentiel pour la vie de la nation, dit Emmanuel Macron. Il souhaite un système qui construit l'avenir et non juste une réforme financière. Le pronostic vital d'une collégienne de 14 ans est engagé dans le Jura. Elle a été victime d'une intoxication après un cross, une course en plein air au stade de Morbier. Elle a dû être héliportée vers un hôpital. En tout, une quinzaine de jeunes ont été victimes de malaise, dont 5 ont été hospitalisés.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, ce débat citoyen sur les retraites bat son plein. Nous sommes toujours en direct avec Emmanuel Macron face à 500 personnes à Rodez. Et cette question d'Anthony, une trentaine d'années, chef d'entreprise dans le BTP, sur l'inquiétude des jeunes face à leur avenir.
Donc ma question est simple, c'est que depuis qu'on est tout petit, on nous dit que nous les jeunes, on n'aura jamais de retraite. Donc avec votre système, qu'est-ce qu'il en sera ?
Anthony, ce que vous avez dit, c'est exactement ce pourquoi on fait la réforme. Cette transformation, qu'on refonde les choses. Moi j'ai regardé depuis des années, un jeune qui rentre dans le système, il dit, moi j'entends depuis que je suis né, j'ai 10 ans de plus que vous, mais je vous rassure, moi je suis dans la même situation, on entend à chaque fois, le système va péter, il faut faire une réforme, et il faut allonger. Je pense qu'il va peut-être falloir, en fonction de ce que les experts nous diront, travailler un peu plus. Mais en tout cas, le système, si on veut un jour qu'il soit juste et qu'il donne de la visibilité à tous les jeunes, il faut le refonder sur un pacte de confiance. Ce pacte de confiance, c'est, je crois, le système qu'on propose. Et donc, le jeune que vous êtes, il a acquis tout ce qu'il a acquis dans le système actuel. Il va continuer pendant 5 ans. Mais vous aurez ensuite un système lisible où tous les points que vous achetez, que vous cotisez, ben, ce seront des points qui seront acquis, vous aurez votre compte, c'est un droit, cet argent ira pour financer vos anciens, mais vous, ce droit, c'est un droit que vous contractez à l'égard de la nation, il est imprescriptible. Et ça, ce sera mis dans la règle d'or. Et donc, ce sera mis dans la loi, comme avec une valeur extrêmement forte, ça ne pourra pas bouger, ce ne sera plus négociable. Et dans la règle d'or aussi, il y aura les mécanismes de valorisation de ce point, ce qui permettra, une fois que cette règle d'or sera passée, de voir comment le point se valorise d'année en année. Et la seule chose que pourront bouger ensuite c'est les partenaires en fonction de ce que les experts diront, ben ce sont d'autres paramètres qui peuvent être en effet la durée, mais ils devront s'en expliquer à la lumière de ce que les experts disent, les éléments de cotisation, mais rien de ce qui sera dans la règle d'or. Donc le système qu'on va refonder, il sera plus lisible, il sera le même pour vous et tous ceux de votre âge, quel que soit leur secteur d'activité. Vous pourrez le suivre, là ce ne sera pas un simulateur, mais avec un compte en ligne qui vous donnera à chaque moment de la vie là où vous en êtes, ce qui donne de la crédibilité, et avec, dans la règle d'or, des choses qui sont imprescriptibles et qu'on ne pourra plus bouger.
Voilà donc Emmanuel Macron qui vient de répondre à Anthony à Rodez, Nathalie Moret, Anthony qui offre un boulevard au chef de l'État, parce que la réforme c'est pour lui.
Mais c'est ça,
pour ce jeune-là.
C'est exactement ça. Vraiment, Anthony, là, c'était bingo pour le chef de l'État. Oui, c'est le but. Le but, c'est de faire de la pédagogie pour dire aux jeunes, vous aurez une retraite dans 30 ou 40 ans quand le moment sera venu, parce que j'entends bien que vous n'avez pas confiance. Il essaye, il le dit quasiment à chaque réponse, il emploie le mot dans le même temps, il faudra travailler plus, quasiment tout le temps, avec des termes différents, et il emploie toujours le mot confiance. C'est un changement de vocabulaire, parce que travailler plus, là, on l'avait souvent entendu, le terme confiance, assez peu. Donc le fait de donner une perspective, c'est un des éléments qui, à mon avis, le plus important dans l'exercice de ce soir.
Oui,
c'est
une fèvre, la pédagogie.
C'est rétablir une justice, que je disais tout à l'heure, et rétablir une crédibilité. À l'heure où on voit que quand même la parole politique est devenue un peu une langue morte, c'est-à-dire une forme de défiance envers le politique.
Oui, ça vaut pour les retraites, évidemment.
Voilà, et donc et aujourd'hui, une chose dont on est sûr, on ne sait pas ce que dira le corps, donc on ne sait pas cette valeur du point, il reste encore plein de choses, mais la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on travaillera plus longtemps, parce qu'on prend quand même par trimestre, on gagne un trimestre par an de durée de vie. Donc là aussi, c'est non seulement une question de justice, de crédibilité, mais aussi de logique. Si je ne sais pas dans combien de temps on vivra jusqu'à 150 ans, c'est peut-être pas demain la veille. Enfin, moi, je l'espère pas. Je sais pas vous, mais je peux vivre jusqu'à 150 ans.
Non.
Voilà. De toute façon, les choses vont évoluer, bien évidemment.
Olivier Pérou, le débat se poursuit. Il va durer longtemps. C'est ce que disait Yannick Falt. Il est question de 3 heures. Au fond, il faut convaincre parce qu'il y a cette étude Elab qui a été publiée aujourd'hui. 43% des Français opposés à la réforme qui vise à la fusion en un système unique par points. Les 42 régimes existants, c'est beaucoup, 43%.
d'opposition.
C'est beaucoup, et d'autant plus que si on compare un peu avec ces régimes spéciaux, ça ne concerne que, je crois, à peu près 20% des actifs. Donc finalement, les Français ont l'impression que c'est une grosse réforme, un gros changement pour peu de choses. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui intéresse les Français, c'est ce qui va leur rester dans la poche au moment de leur retraite, ce qu'ils vont avoir comme argent. C'est vraiment leur première des préoccupations. Alors, qu'est-ce que peut faire Emmanuel Macron pour répondre là-dessus? C'est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tous les éléments de réponse encore. On a besoin du rapport du corps pour avoir ça. Donc, ce jeu-là doit être un peu entretenu, mais ça ne peut pas durer si longtemps.
C'est vous qui aviez le mot de la fin. Vous êtes le jeune de l'étape. Hein. la une du Point, le magazine. Hein.
Oui, une du Point sur les agriculteurs et la France rurale. Est-ce que les agriculteurs sont des pestiférés? On pose la question et on y répond.
Nathalie Moret, la une dans le groupe Ebra.
Majoritairement sur ce qui est arrivé aujourd'hui à la préfecture de police.
Allez, on reste en édition spéciale sur France Info avec Julien Langlais. Dans un instant, nous allons continuer à entendre les interventions du chef de l'État Emmanuel Macron dans ce grand débat en cours à Rodez sur les retraites. Pour ma part, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On reste ensemble. De toute façon, merci à vous Nathalie Moret, merci Roselyne Fèvre, merci Olivier Perroux. Restez avec nous sur France Info.